Chapitre 7. Les doigts de Magda griffèrent frénétiquement la pierre sur ses deux flancs, mais cela ne suffit pas pour briser son élan. S'inclinant vers le vide, elle comprit que plus rien ne viendrait l'arracher à son destin. Alors qu'elle basculait dans le gouffre, la pointe de ses pieds encore en contact avec les créneaux, une rafale de vent la repoussa en arrière, soulevant son corps comme s'il s'était agi d'une vulgaire feuille morte. Dès qu'elle sentit ses talons se reposer sur la pierre, la jeune femme bascula tout son poids vers l'arrière et s'accrocha plus que jamais aux deux blocs de pierre. Par miracle, elle parvint à se rétablir, le souffle court après être passée à presque rien de faire le grand plongeon. Toujours en équilibre précaire, cependant, elle craignit un moment de basculer encore vers l'avant. Lâchant le bras gauche, elle s'en servit comme d'un balancier pour s'équilibrer, puis s'accrocha des deux mains au bloc de pierre de droite, miraculeusement fissuré à cet endroit. Une prise précaire mais suffisante. Certaine de ne plus rien redouter, Magda baissa les yeux sur la pique auquel elle venait d'échapper. Comme celui d'un condamné à mort qui reçoit sa grâce une seconde avant de poser la tête sur le billot, son cœur battait la chamade et il n'était pas prêt de se calmer. Bizarrement, elle se sentait parfaitement lucide pour la première fois de la journée. Elle était toujours vivante, avec la ferme intention de le rester. Un millier de questions tourbillonnaient dans sa tête et elle entendait bien découvrir les réponses. Consciente qu'elle était toujours dans une position périlleuse, elle resserra sa prise sur sa planche de salut. Vraiment, ce n'était pas le moment de tomber accidentellement. Soudain, elle sentit quelque chose d'étrange dans la fissure. Un joint entre deux petits blocs de pierre en réalité. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose qui ressemblait à... Plissant les yeux à cause de la pénombre, Magda les approcha du joint et distingua, coincé à l'intérieur, ce qui était bel et bien une feuille de parchemin soigneusement pliée. Que pouvait-elle donc faire à cet endroit? Enfin, c'était absurde. Qui aurait ainsi placé un message dans un joint à cet endroit précis, et pour quelle raison? Magda approcha un peu plus pour mieux voir. La feuille semblait assez profondément enfoncée. Du bout des doigts, elle parvenait à peine à la toucher. Poussant au maximum, elle réussit à refermer dessus le pouce et l'index de sa main gauche. Prenant garde à ne pas la déchirer, elle fit osciller doucement la feuille afin de la décoincer de son logement. À force de patience, elle parvint à l'en sortir. La serrant assez fort pour qu'une rafale de vent ne risque pas de la lui arracher des doigts, elle sauta de son perchoir, reprit son équilibre et déplia ce qu'elle pensait être un message. Elle ne s'était pas trompée, constata-t-elle en reconnaissant l'écriture de son mari. Les yeux de plus en plus plissés, car la lumière baissait à chaque instant, elle déchiffra l'improbable missive. Magda, mon temps est révolu, mais pas le tien. Ton destin est la recherche de vérité. Ce sera difficile, mais je t'implore de relever ce défi qui te demandera un courage inhumain. Baisse les yeux et regarde sur la gauche de la vallée à la lisière de la cité. Vois-tu le palais qui se dresse sur une butte? C'est là que s'accomplira ta destinée, pas devant mon ancienne enclave. Surtout, n'oublie jamais que je croirai toujours en toi et que je continuerai à t'aimer par-delà la mort. Tu es une fleur sauvage très rare, mon aimé. Sois forte, préserve ton indomptable esprit et vis l'existence que toi seul peux vivre. Magda cligna des yeux pour en chasser ses larmes et relut le testament de Baracus. Dans sa tête, elle entendit chaque mot comme si son mari le prononçait devant elle. Le cœur serré, elle embrassa le message. Puis, elle baissa les yeux, comme le lui demandait Baracus, et découvrit la butte verdoyante qui s'élevait effectivement à la lisière d'Aïdindril. Mais de quel palais parlait donc son mari? Et quel rapport avec sa destinée? Baracus était un sorcier de guerre et un expert en matière de prophétie. Ravalant la boule qui se formait dans sa gorge, Magda se demanda s'il entendait qu'elle continue à vivre et aille jusqu'à épouser un autre homme. Elle refusait jusqu'à cette idée. Elle n'aurait plus de compagnon après avoir perdu le seul amour de sa vie. Certaine qu'ils avaient un sens caché, elle relut les derniers mots de son époux. Et il y avait bien plus dans ce texte qu'une simple prophétie. beaucoup plus même que les mots d'adieu et d'encouragement d'un mari à sa femme. Les sorciers vivaient dans un monde bien à eux et extraordinairement complexe. Sauf en de très rares occasions, ils ne s'exprimaient jamais simplement, à l'inverse du commun des mortels. Sur ce point, Baracus ne faisait pas exception à la règle. Chacun de ces derniers mots était mûrement réfléchi, elle n'en doutait pas. Il y avait dans ce texte une intention secrète. Ton destin est la recherche de vérité. Ce sera difficile, mais je t'implore de relever ce défi qui te demandera un courage inhumain. Qu'avait voulu dire Baracus? Pour commencer, de quelle vérité parlait-il? Et en quoi s'agissait-il d'un défi à relever? Des pensées tourbillonnèrent dans la tête de Magda tandis qu'elle tentait de deviner le sens du message de son mari. Cette vérité concernait-elle ce qu'il avait fait lors de son séjour dans le Temple des Vents? Avait-elle un rapport avec la lune rouge qui persistait alors même qu'il avait semblé réussir sa mission au moins en partie? Devait-elle plutôt découvrir pourquoi il avait mis fin à ses jours juste après son retour du temple? Toutes ces possibilités se tenaient, mais il y avait plus encore. Elle en aurait mis sa main au feu. Un message secret, oui, parce que Baracus ne pouvait pas s'exprimer clairement sur ce sujet précis. Un jour, il lui avait dit que le simple fait qu'on connaisse une prophétie pouvait avoir sur la prédiction en question de terribles conséquences, soit en favorisant sa réalisation, soit au contraire en l'interdisant. Pour éviter que ces prophéties autoréalisatrices influencent indûment le comportement des gens, il était parfois indispensable de les expurger. En d'autres termes, de censurer des informations afin de laisser agir le libre arbitre auquel l'humanité avait droit en toutes circonstances. Même si elle ne comprenait pas tout le sens du message, Magda conclut que son mari lui en disait autant qu'il lui était possible sans altérer son libre arbitre. Les derniers mots de Baracus étaient bien entendu d'une importance capitale. Pour lui évidemment, mais sans doute plus encore pour leur destinataire. Elle-même en l'occurrence. Magda regarda de nouveau la cité et la butte que l'obscurité envelopperait bientôt. Coûte que coûte, elle devait comprendre le sens de l'ultime message de son mari. Sinon, son sacrifice aurait été vain et ça, c'était hors de question. Désormais, elle vivait de nouveau pour quelque chose. La recherche de vérité. Oui, mais laquelle et comment? Par-delà la mort, son mari était parvenu à lui redonner une raison de vivre parce qu'il continuait à croire en elle. Magda embrassa de nouveau le message, puis elle se laissa glisser sur le sol et éclata en sanglots. Des larmes versées sur tout ce qu'elle avait perdu et sur ce qu'elle venait de recouvrer. Car si le chagrin n'était pas prêt de la quitter, être encore en vie, elle devait l'admettre, était un miracle dont elle remerciait le ciel.